CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 des 6 dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur notre compte LinkedIn CIOradio.tv. À mes côtés pour co-animer cette émission, Thierry Cartala. Bonjour Thierry.
Bonjour Billy.
Merci d'être là et de nous recevoir dans vos locaux. Vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultant. Aujourd'hui, nous accueillons Grégory Churgast. Bonjour Grégory, ça va bien ?
Très bien. Bonjour Billy, bonjour Thierry.
Alors, Grégory, vous êtes directeur informatique de Vente Unique. On va revenir sur ce site qui cartonne. On va revenir aussi sur les habitudes, finalement, des Français qui aiment de plus en plus leur intérieur, leur décor et faire également du bricolage. On parlera aussi du Covid. Je pense que ça a été quelque chose de positif. C'est assez exceptionnel pour vous. Mais avant, on va se pencher sur ce petit garçon, sur sa carrière. Petit garçon qui est né en 1976 à Paris, dans le 17e arrondissement. Vous étiez un petit garçon très heureux, en tête pour votre avenir. Vous n'aviez pas vraiment d'idée, mais votre maman, oui.
Tout à fait.
Et comme vous étiez un petit garçon modèle et très sage, vous avez écouté maman. Pourquoi votre maman vous voyait expert comptable ?
Ah bah une tradition familiale, un oncle expert comptable, un cousin un peu plus âgé que moi qui était en phase de reprendre un peu l'activité de son père. Et je pense que effectivement la famille voyait le cabinet familial grossir.
Et vous, d'entendre les oncles, tous les parents qui faisaient ce métier, ça vous a jamais affolé ? C'était un peu normal, finalement.
Non, j'étais un peu bercé là-dedans, donc j'ai suivi la mouvance.
Et avec réussite, hein, puisque vous passez un bac S et vous débutez une école de commerce, mais vous allez l'arrêter au bout d'un an. Pourquoi ? C'était pas votre cam, ça ?
Alors, l'expertise comptable, pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. Par le biais du Conservatoire National de Commerce, vous faites l'INTEC. On dit l'INTEC ou l'INTEC ?
Ça n'existe plus, je disais l'INTEC à l'époque.
Eh bien, on va dire l'INTEC pour des études comptables et financières, mais c'était en cours à distance. C'est-à-dire qu'à cette époque, vous allez trouver un stage d'été de 2 mois dans une société qui s'appelle Cartesis, 15 jours avant. C'est important un stage hein, quand on débute, quand on est jeune.
Oui, c'était un petit stage d'été aussi pour gagner un peu d'argent.
Pour gagner un peu d'argent. Exactement. 15 jours avant, un coup de fil. Enfin, vous appelez parce que vous n'avez pas de nouvelles, on vous dit « on ne veut plus de vous ».
Exactement, on m'explique que le stage, finalement, il cherche quelqu'un pour 6 mois au lieu de 2 mois et que le stage tombe à l'eau pour moi.
Mais quand ils ont relu votre CV, vous aviez mis, c'était nouveau à l'époque, dans vos hobbies que vous étiez passionné d'Internet. Donc qu'est-ce qu'ils vous proposent à ce moment-là ? C'est incroyable.
Exactement, alors mon père vivait aux États-Unis et puis pour communiquer avec moi plus facilement, m'avait payé une connexion Internet dans les années 96, donc c'était assez rare en France. Mm-hmm. N'ayant rien à dire sur mon CV, j'avais marqué Internet. Et on me propose de développer un site. Je ne l'avais jamais fait de ma vie, mais un peu au bluff, j'ai dit « pas de problème, je vais vous faire ça
». Non seulement vous l'avez fait, mais ça a dû plaire, puisque vous êtes resté 9 ans comme webmaster au départ, puisque vous avez créé le site.
Exactement.
C'est un coup de bluff que vous expliquez comment ? Par la passion, par l'envie, par la folie de la jeunesse, où on dit « ok, j'ai pas de bouée, mais je saute dans le grand bain ».
Alors la folie de la jeunesse, pas vraiment, alors, peut-être un peu, mais c'est vrai que j'ai toujours été passionné de développement sans comprendre pourquoi. Quand j'avais 13 ans, j'ai commencé mes premiers programmes sur calculatrice, et c'était naturel pour moi. Donc finalement, développer un site internet, j'ai vraiment pas eu de difficulté, c'était même amusant.
C'était amusant. Alors, 9 années, hein, sur au départ, un coup de dé, j'ai envie de dire. Ensuite, on va vous retrouver chez Logica. Alors, c'est au moment de son rachat par la CGI. Donc, vous avez signé pour une boîte et vous travaillez pour une autre, quoi, en gros.
Oui, bah c'était
anecdotique, mais c'est drôle.
C'est hasard du calendrier, mais oui, effectivement.
On va vous retrouver dans votre progression professionnelle, ensuite dans une agence de com qui s'appelait Business Lab. Là, vous étiez chef de projet technique. Ça veut dire quoi dans une agence de com à l'époque ?
Alors, c'était une agence qui avait beaucoup de sous-traitants en Asie, donc pour les coûts de développement. Et donc, je faisais la liaison entre les équipes. Alors, il y avait des développeurs en Asie, des développeurs à l'île Maurice. Et donc, mon rôle, c'était de synchroniser les deux équipes pour que, limite, on travaille en 24/7. Et quand on était un peu en sous-activité, d'aussi mettre les mains dans le code pour développer des applications pour des grands médias, des groupes médias et des choses comme ça.
Alors, en 2010, vous allez devenir directeur technique chez Vente Unique. Vente Unique, c'est un site où il y a combien de références ?
Alors, aujourd'hui, on a un peu plus d'un million de références, puisqu'on est ouvert dans Marketplace depuis un an et demi. Donc, pendant longtemps, on avait 8-9 000 références quand on vendait nos propres produits. Mais effectivement, depuis un an et demi, l'ouverture de Marketplace a fait exploser ce nombre de références.
On a vu certains grands noms de l'ameublement. Je pense à Habitat, que vous avez eu pendant 5 ans dans votre groupe, faire faillite. Comment, d'un mot, avant les questions de Thierry, comment vous expliquez le succès incroyable de Vente Unique qui progresse tous les ans, alors que c'est un secteur qui se casse un peu la figure quand même.
Alors, en un mot, c'est difficile, mais je pense que
c'est... En deux, alors.
Je vais essayer en trois ou quatre, mais je pense que c'est déjà la vision de plusieurs personnes. Hervé Jaoui, qui est notre fondateur, et aussi Sacha Vignat, qui est également cofondateur de la société, et aussi un vrai travail d'équipe entre les différents directeurs. Et je pense que le secret, c'est qu'on gère tous cette boîte-là comme si c'était la nôtre. On essaye d'être toujours rentable dans la moindre de nos décisions, dans les choix qu'on peut faire, et je pense que c'est un peu le secret.
Quand vous dépensez un euro, c'est pour en avoir 10.
10 ou 15.
Ou 15, voilà. Bon, Thierry, on a quand même quelqu'un devant nous qui représente un site assez incroyable qu'elle vend en poupe. Quelles sont les premières interrogations quand vous regardez ce site, Vente Unique, et la progression et le parcours de notre invité, Thierry ?
Eh ben, qu'on est face à une tech compagnie.
Ben oui.
Et voilà, elle a pas de magasin et elle vend en ligne et elle se porte finalement mieux qu'Habitat. Donc ça pose des questions, à la fois pour nous, citoyens, parce que bon, il faut acheter en ligne, se faire livrer, espérer que les produits soient de qualité. Et donc, une des premières questions qu'on se pose dans le succès de toutes ces plateformes, on en a reçu beaucoup, c'est les parcours. Comment vous concevez les parcours aujourd'hui ? J'imagine que depuis le développement de votre premier site web, ça a un peu changé. Et comment, effectivement, vous utilisez les données de transactions sur ces sites pour améliorer en permanence les parcours et l'expérience utilisateur ?
Alors, on a des outils formidables aujourd'hui qui nous aident justement à voir un peu les zones de clic, les appétences des personnes. Et c'est après énormément aussi de tests A/B qu'on met en continu sur le site pour essayer de voir effectivement les appétences des visiteurs et de voir effectivement si une zone de produit un peu plus mise en avant ou un peu moins mise en avant va permettre de mieux convertir. Ça fait partie des choses qu'on va beaucoup analyser et souvent test A/B puisque c'est le meilleur moyen de savoir ce qui est mieux pour nos visiteurs.
Et du coup, ce qui est important dans ce type de business model, c'est qu'il faut qu'il y ait une liaison très forte entre effectivement les gens qui développent les parcours et mettent le catalogue en ligne, référence, puis les acheteurs. Comment ça fonctionne ? Si je suis en rupture de certains canapés ou certains produits qui ont un succès fou, comment on fait ? Vous augmentez la pression auprès effectivement des achats, il faut suivre. Est-ce que vous faites des stocks ? Est-ce qu'il y a des paris effectivement qui sont mis en œuvre pour dire on met dans nos entrepôts toute une gamme de produits dont on pense qu'ils vont être vendus ? Comment vous régulez effectivement cet enjeu qui est majeur pour votre actionnaire, qui est effectivement d'avoir en permanence une structure de coûts qu'il maîtrise, des stocks, et puis l'écoulement des produits via votre plateforme ?
Donc il y a très longtemps, on a mis un outil en place qui justement essaie de monitorer et de faire les meilleurs choix. On a mis ça il y a plus de 10 ans, qui permet justement de monitorer pour le marketing qui va créer l'offre, de faire en sorte qu'ils aient toutes les références qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs. Et c'est corrélé continuellement avec des suivis au niveau acheteur pour s'assurer que les produits étaient commandés pour les recevoir dans les temps et aussi dans l'entrepôt, parce que il ne faut pas qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle techniquement des surestarises et qu'on puisse bien réceptionner ce qui a été commandé. Et donc, ces outils sont en temps réel depuis des années qui nous permettent donc de mesurer constamment les demandes du marketing pour respecter les objectifs, les commandes et le suivi de l'entreposage.
Et ça, c'est des outils que vous avez développés vous-même dans l'entreprise ou c'est des logiciels que vous allez chercher sur le marché ?
C'est peut-être un des secrets de Vente Unique, mais on n'a aucun logiciel en interne. On a développé un ERP qui représente aujourd'hui plus de 600 000 lignes de code et tout a été fait en interne.
Voilà qui est intéressant. Alors, vous avez quelques compétences pour les développer, ces ERP. Globalement, c'est quoi le ratio entre les internes et les externes que vous avez au sein de la DSI pour développer cette petite machine ?
100-0. 100% interne, 0% externe.
Voilà, c'est intéressant ça. J'espère que pas mal d'auditeurs vont nous écouter parce qu'il y a des DSI qui doivent réfléchir à ce type de posture. Alors, c'est pas toujours possible. Quand on est une banque, je vous conviendrai que c'est quand même pas effectivement facile. Mais du coup, comment vous gérez un point intéressant, c'est la guerre des talents. Comment vous vous assurez que vous avez les meilleurs ?
Alors, je les ai recrutés il y a 15 ans, ils sont encore là. Donc, c'est plutôt pas mal. Et jusqu'à présent, j'ai pas trouvé. Alors, l'équipe a réussi à grossir et c'est vrai que c'est aussi une chance. J'ai des personnes qui sont avec moi depuis le début. Je suis Vente Unique depuis 15 ans, j'exagère. Je suis chez Vente Unique depuis un peu moins de 14 ans. Il y a certaines personnes qui étaient là un peu avant moi, qui sont encore dans mon équipe. D'autres personnes que j'ai recrutées en sortie d'école qui sont toujours là. J'ai aussi une équipe qui est arrivée un peu, alors Vente Unique s'est restructurée juste après le Covid, même pendant le Covid, où l'équipe a pu grossir. Et là, on a réussi à attirer des talents qui sont tout aussi formidables que ceux que j'avais avant.
D'accord. Et cet écosystème avec cette plateforme ERP, vous pensez, je dirais, l'étendre avec effectivement des fonctionnalités sur le smartphone, sur effectivement les livreurs, l'ensemble des partenaires qui bossent avec vous, peut-être en remontant la chaîne de valeur avec les fournisseurs?
Alors, il y a toujours, ce que je dis, c'est que nous, on est l'outil. Donc, en fait, à partir du moment où la logistique va avoir un besoin, à partir du moment où les approvisionneurs, les acheteurs vont avoir un besoin, que le marketing a un besoin, on est là pour apporter des solutions et être le plus proche de pour leur donner des conseils, parce qu'on est une vraie expertise dans le monde du web. Et après, sky is the limit, je dirais. Donc, on n'a pas de problème pour développer ce qu'ils ont besoin et mettre en place des outils qui leur permettra de mieux progresser.
D'accord. Et ensuite, en termes d'organisation, comment vous êtes organisé au sein de la structure ? Vous avez des équipes agiles ? Elles sont dans les métiers ? Elles sont chez vous ? Comment vous avez fait ?
Alors, depuis le Covid, on a un peu de télétravail. Mais sinon, effectivement, c'est des méthodologies agiles, je dirais, assez classiques. Nous, on a fait le choix, justement pendant le Covid, de se réorganiser parce que l'équipe a beaucoup grossi. Quand je dis beaucoup grossi, on est passé de... J'étais avec 3-4 développeurs et on est passé à une vingtaine de personnes. Et effectivement, maintenant on travaille selon la méthodologie Kanban, puisqu'on est dans une boîte très tech où on a des idées toutes les minutes. Donc, c'est un peu cette méthodologie qui permet de se dire bon, quelle est la plus grosse priorité. C'est ça qu'il faut qu'on sorte aujourd'hui. Puis peut-être que demain, ça va changer.
D'accord. Donc, le métier vous suit ?
Le métier nous suit. On suit le métier. C'est vraiment un travail d'équipe, je dirais.
Bravo.
Merci.
Merci Thierry pour vos questions. On a bien compris que la réussite passait aussi par le fait que chaque personne qui a un poste important se bat comme si c'était son entreprise. Donc il y a un moment, il faut décompresser, il faut prendre de l'air. Et vous, pour prendre de l'air, Grégory, vous avez beaucoup pratiqué pendant 15 ans les arts martiaux.
Tout à fait.
Et vous êtes encore très très jeune, mais vous me dites, mon corps il suit plus. Ça veut dire quoi ça ?
Ça veut
c'était
dire
trop violent
que... Oui, c'était un peu violent, parce que quand je suis sur un tatami, je lâche pas. Et effectivement, ça se traduit par des genoux cassés, des chevilles abîmées, des côtes brisées. Et donc avec l'âge, on met un peu plus de temps à s'en remettre, donc on essaie de se calmer.
Alors, on se calme, mais on a toujours besoin de décompresser. Et vous avez trouvé un autre sport qui n'est pas anodin. Vous aimez piloter des voitures, des belles voitures, mais sur des circuits. Alors, vous m'avez parlé, moi, d'un circuit que je ne connaissais pas, qui est en banlieue parisienne, celui de Trappes. Et avant de nous parler comment est le circuit, par rapport au circuit Carole, mais c'est plus pour les motos ou d'autres circuits comme ça, à Montlhéry, sur quoi vous courez ?
Alors, ou sur des voitures qui peuvent être louées par des organismes sur place, ou sur une Porsche, parce que c'est sympathique.
Bah oui, c'est sympathique. Alors, ce circuit, qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres ?
Alors, de mieux que les autres, il est pas loin de chez moi.
Oui, d'accord.
Donc, déjà, c'est plutôt agréable. Après, voilà, il y a des track days qui sont organisés régulièrement, donc j'essaie d'en profiter. Après, il y a des circuits beaucoup plus sympathiques en France, mais c'est vrai qu'il y a le côté quand même logistique qui est pratique, de proximité qui est plutôt agréable.
Le Castellet sous le soleil, c'est agréable hein, quand même, mais ça fait un peu loin pour
c'est
le.
C'est un peu plus loin.
Ouais. C'est un peu plus loin pour le week-end. C'est quelque chose que vous avez envie de continuer cette course automobile, ce pilotage.
Alors, je suis encore très très débutant, mais effectivement, c'est quelque chose qui est assez passionnant. Ça demande beaucoup de concentration et ça donne beaucoup d'adrénaline. Donc, aller chercher une petite seconde en plus à chaque tour, c'est.
Gamin, je suppose que vous aimiez quand même les voitures, comme tous les petits garçons. Le nom d'un pilote qui vous aurait marqué dans votre enfance?
Ah bah Alain Prost pour moi, c'est pas voilà.
le plus grand, le plus beau, le voilà. meilleur. Merci. Surtout quand il était chez Ferrari, ça avait été une belle combinaison. Merci infiniment Grégory d'être venu à notre rendez-vous. Merci également à vous Thierry. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur notre compte LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.